Journal d'information et de débat du plateau de Mille Vaches sur Radio Vassivière. Bonjour et bienvenue dans cette quatrième édition de l'émission d'IPNS, l'émission qui paraît en même temps qu'IPNS ou presque, juste un petit peu après. Donc on est un petit peu en retard pour cette édition, Michel, puisqu'on devait faire l'émission au mois de décembre, juste après la sortie du numéro 89 dont on va parler. Et puis on a eu un petit contretemps, voilà, donc on enregistre en début janvier. Mais les informations d'IPNS sont encore largement valables.
C'est l'avantage d'être un trimestriel.
Voilà. Donc autour de la table, on est quand même assez nombreux en ce début d'année. Donc Michel, Nicole, Jean-François, Michel et Marcus et Jean-Noël. Voilà, on va parler de ce numéro, On va un peu balayer, comme d'habitude, un peu le sommaire du numéro et puis faire un petit focus sur quelques articles. Et on va commencer par la couverture, une belle couverture. Peut-être que on a les deux auteurs des articles qui sont reliés à la couverture, Marcus et Jean-Noël. Bonjour.
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 Alors, peut-être que vous allez décrire déjà. Peut-être la une, on va commencer comme ça. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette une?
Alors c'est donc le nouveau député de la Creuse, Bartholomé Lenoir, qui avec un photomontage où il est, on l'a déguisé en Donald Trump, quoi, avec la cravate rouge, costume bleu et la mèche blonde de l'ex-futur nouveau président des États-Unis. Parce que en enquêtant sur sa trajectoire et sa façon d'opérer, on trouvait qu'il y avait quand même un parallèle intéressant à développer.
Oui, parce que c'est plutôt inattendu sur un député creusois. Alors bon, on se dit ok, l'extrême droite, Trump, on voit un petit peu, il peut y avoir vaguement des liens comme ça, peut-être même un peu plus que vaguement, mais il y a des choses assez précises qui relient en tout cas ce député-là. Donc alors on dit d'ailleurs. Donc c'est pas un député Rassemblement National, hein, c'est un député ciotiste, je sais pas comment on dit d'ailleurs.
On dit ça, on dit ciotiste, ouais.
Ciotiste, c'est ça.
Du parti d'Éric Ciotti.
Qui s'appelle UDR.
Alors peut-être avant d'en venir à ces liens avec la sphère trumpiste, on va dire ça comme ça, peut-être qu'on peut commencer par une sorte de biographie, peut-être vous retracez, vous avez fait une enquête vraiment pour essayer de comprendre d'où venait alors celui que vous appelez le petit marquis radicalisé. Alors peut-être parler déjà de votre démarche.
Oui, alors Bartholomé Lenoir a été élu en juin au bénéfice d'une triangulaire, et c'est vrai que avant qu'il se présente, absolument personne le connaissait sur le territoire, et pour cause, il venait d'arriver, ça faisait quelques mois qu'il s'était encarté, qu'il avait rejoint les Républicains en Creuse, et auparavant il travaillait au siège LR, et il a été élu parce qu'effectivement dans cette vague brune qu'il y a eu aux élections à ces élections législatives, quelque part il suffisait de s'afficher derrière Jordan Bardella pour avoir déjà un socle de voix, donc il a été porté par ça. Mais personne ne le connaissait, donc on s'est dit d'où il vient, et on s'est rendu compte que finalement il n'est pas arrivé en Creuse par hasard, quoi.
Alors, il n'est pas arrivé en Creuse par hasard. Alors, je crois que lui-même se targue d'être quand même vraiment creusois d'origine. Il parle beaucoup de ses origines creusoises. Il vante évidemment l'identité creusoise. Voilà. On pourra peut-être revenir là-dessus. Mais apparemment, ce n'est pas si clair que ça, son lien à la Creuse, c'est ça ?
Je crois qu'il n'y a jamais habité. Il a ses parents qui s'y sont mariés au début des années 80. Et il a acquis récemment une propriété à Lépau, donc dans le nord-est, pas loin de Montluçon.
Mais auparavant, donc il a plutôt grandi dans la région Pays de la Loire, Et il a fait ses études à Nantes dans un grand lycée de la bourgeoisie nantaise. Il est passé par la fac d'Assas à Paris. Il a fait des études de management à Lyon. Mais voilà, en tout cas, il n'est pas souvent passé par le Limousin. Il n'était pas souvent passé par le Limousin jusqu'alors. Alors, pour reprendre en tout cas ta question de départ, qu'est-ce qui nous rapproche de Trump dans sa trajectoire ? Ben, en enquêtant sur lui, on s'est rendu compte qu'il était passé par, des réseaux qui ont à voir justement avec la galaxie Trump. Alors, d'abord, il a été directeur de Contribuable Associé. Contribuable associé derrière une association qui se présente pour la bonne gestion des deniers publics. Bon, bah, c'est une association d'inspiration libertarienne, hein, faut être clair, hein, qui en tout cas défend l'idée que l'État doit être réduit vraiment à sa portion congrue, à ses simples fonctions régaliennes, et qui défend un agenda ultra-libéral. Et par ailleurs, il s'est formé aux fonctions politiques, en tout cas à travers un organisme qui s'appelle l'IFP, et qui a formé toute une génération de cadres d'extrême droite qu'on voit aujourd'hui, notamment dans les médias de la sphère Bolloré. Certains ont été candidats aux dernières élections législatives, où ils sont assistants parlementaires. Et donc, le point commun entre ces deux associations, en tout cas ces deux organismes par lesquels il est passé, bah, c'est qu'elles font partie du réseau Atlas. Alors le réseau Atlas, on explique, hein, ce que c'est dans l'article, c'est un réseau d'organisations, d'associations dans le monde qui partagent ce même agenda libertarien, et qui, en tout cas, c'est un réseau qui est aussi largement financé aux États-Unis. Derrière, on voit beaucoup de milliardaires, on voit l'industrie du pétrole, des énergies fossiles, des lobbies pharmaceutiques, et qui aussi ont en commun d'être absolument climato-sceptiques, d'attaquer les droits des minorités, et poursuivre ensemble des buts communs. Donc on a trouvé intéressant que Bartholomé Lenoir soit passé par ces deux organismes.
Oui, d'ailleurs, on n'a pas dit, il est jeune. En fait, tu parlais d'assistant parlementaire, il pourrait être presque assistant parlementaire. Enfin,
il est né en 91, je crois.
91,
ou 90.
Ouais.
Qui lui fait, donc,
pour moi, ça fait jeune, mais c'est vrai, peut-être que c'est pas jeune, en fait.
Pour nous. Puis on a parlé aussi un petit peu de son extraction sociale. Mon collègue l'a dit, mais on trouvait ça important de rappeler que c'est quand même qu'un parti qui se présente comme l'extrême droite, comme des défenseurs du peuple, et que voilà, il vient pas du tout du bas de l'échelle sociale. Sa maman était PDG d'une entreprise qui produit du PVC et qui marchait bien. Lui-même a fait une école de commerce à 20 000 euros par an. Voilà, c'est pour quelqu'un qui défend le peuple. Voilà, c'est quelqu'un qui habite encore à Paris, à notre connaissance, et qui fait des allers-retours de temps en temps pour faire quelques photos sur Instagram le week-end en Creuse. Comme beaucoup de députés, hein, bien sûr, mais bon, c'est vraiment assez factice son lien au vrai creusois. Dont il a parlé de façon assez spectaculaire au mois d'octobre, là, c'est quand même là qu'il a percé un peu médiatiquement.
Oui, on peut peut-être rappeler cette séquence télévisuelle qui a pas mal tourné.
Ouais, et puis c'est la séquence aussi qui nous fait nous dire, nous à IPNS, bon, faut peut-être qu'on fasse attention à ce personnage, quoi, qui jusqu'à présent, j'avoue que pour moi c'était juste un parmi ces 150 et quelques députés extrême droite qui viennent d'arriver, sans plus de... Je m'étais pas penché sur son cas, j'avoue. Et c'est pas les médias locaux qui nous avaient donné beaucoup non plus d'infos sur lui. Et du coup, il a percé. Alors, j'ai plus les dates exactement en tête, mais d'abord sur France 3, il annonce dans une émission où il est tout seul face au présentateur qu'il va faire une annonce bientôt. Il n'en dit pas beaucoup à ce moment-là. Et puis ensuite, on comprend qu'il s'attaque donc au chamais. D'abord lançant une pétition, puis rapidement en l'appuyant par une prise de parole au moment des questions écrites à l'Assemblée nationale. Et donc là, ouais, on était un peu sidérés.
Le Chamais, ouais, peut-être qu'on peut expliquer en deux mots ce que c'est le Chamais.
C'est un lac avec à côté, qui est la frontière Faux-la-Montagne-Perlevade, Creuse-Corrèze, avec un ancien centre de vacances qui appartenait au comité d'entreprise d'EDF et qui est occupé, qui a été occupé depuis son abandon, de toute façon, 2005, par pas mal d'occupants divers et variés, et qui est occupé de façon un peu plus stable depuis 2018, encore qu'il n'y a quand même pas grand monde, à part un peu l'été. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment de rentrer dans le détail des activités qui se passent là-bas. Pas grand-chose toujours, parfois une bibliothèque, des rencontres.
Et puis une association qui traite des questions forestières. Je crois que c'est ça qui a été mis en avant dans cette séquence, notamment.
Et donc voilà, le député les présente comme des ultra-gauchistes dangereux qui constituent une ZAD ou bientôt une ZAD, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'on était assez stupéfait, qu'on s'est dit qu'on allait réagir.
Oui, alors c'était pendant les questions au gouvernement. Donc là, c'est une séquence qui est filmée en direct. Et il a une réponse, notamment. Alors il fait son intervention et il a une réponse du ministre de l'époque, qui a été reconduit d'ailleurs, Retailleau, qui apparemment avait été briefé sur cette affaire, quoi, et qui dit qu'il va prendre des mesures. Enfin, même, il donne un certain nombre de mesures assez précises qu'il veut mettre en œuvre assez rapidement.
Oui, Retailleau avait dû recevoir la question à l'avance, comme ça va être le cas pour les questions écrites en général. Et voilà, c'est assez triste de se rendre compte que ce jeune homme, qui est censé quand même représenter les 130 000 habitants du département, dans sa première intervention publique, marquante à l'Assemblée, attaque finalement une partie des habitants. Donc tout à l'heure, tu as dit qu'on était les deux auteurs du dossier, mais on n'est pas tout à fait les seuls. Parce que dans IPNS, on a quand même aussi donc Alain Détol et Véronique Descaires qui font leur article sur le député Lenoir. Et les élus et corps intermédiaires de la Creuse, un manifeste qui est très court, mais qui regroupe quand même pas mal de gens en Creuse. 30 communes, 33% des habitants sont représentés d'après leur signature là. Voilà, il y a aussi ces réactions-là face à un élu qui arrive et qui tape fort sur une partie des habitants dès qu'il arrive, quoi.
C'est là où on rejoint un peu donc le Trumpisme et sa formation, un peu voilà, le média training, d'aller dire un peu n'importe quoi, mais de manière très virulente et sur des cibles qui vont être assez payantes. Peut-être, en tout cas, il imagine que ça va être le cas. C'est un peu ça.
Bah, en tout cas, il n'y avait pas une volonté d'être très précis de sa part. C'est sûr qu'il a même dit plusieurs jours après, bon, le Chamais, je ne connais pas, je ne suis jamais allé. D'ailleurs, je ne suis jamais allé à Faux-la-Montagne, j'en suis au Pigerolles. Je dis juste que ce sont des endroits dangereux où certainement je ne pourrais pas aller. Enfin, voilà. Peu importe la précision et la réalité, quoi. Il a vraiment l'intuition qu'en s'attaquant à l'ultra-gauche ou aux écologistes, il va satisfaire une partie des gens. Et voilà, ça suffit pour en faire... Ça suffit comme ligne politique, en fait, malheureusement.
Apparemment, il y a eu des signalements de la part de ses partisans, donc, ou d'administrés, je ne sais pas. Donc, alors, s'il y a des voisins qui vous déplaisent, vous pouvez contacter Bartholomé Lenoir, peut-être qu'il fera une intervention, peut-être qu'il interpellera Retailleau, le ministre de l'Intérieur, pour vous aider dans votre conflit avec vos voisins.
Donc, on va donner le mail de député de la Creuse, donc bartholomé.lenoir. Très bien. Alors, en dehors donc de cette séquence-là qui a déclenché un peu votre envie d'en savoir un peu plus, donc on a parlé un peu de son parcours. Vous faites aussi quelques colonnes sur son programme économique et social que vous qualifiez d'anti-Creuse. Est-ce qu'on peut en parler un peu ?
Oui, ce qui nous a interpellé, c'est que alors dès qu'il arrive là, bon, lui qui est quand même qui connaît quand même pas très bien la Creuse, et d'ailleurs on a des témoignages à l'intérieur donc des Républicains là qui l'avaient vu débarquer et qui disaient mais en fait il connaissait rien, il avait jamais mis les pieds à la campagne, il connaissait rien aux problématiques. Tout d'un coup là, il se manifeste comme le porte-parole de la Creuse éternelle. C'est vraiment, il y a une espèce de patriotisme creusois qui est hyper forcé là, qui nous a interpellé. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a dans son programme? Finalement, ce qu'on expliquait tout à l'heure, quelque chose très en attaque des services publics, de l'intervention de l'État, si on suit le programme de son parti, hein, de Ciotti. Et donc, appliqué à la Creuse, qu'est-ce que ça donne si on enlève encore plus de services publics, encore plus de dépenses publiques? Je suis pas sûr que ça serve l'intérêt des Creusois. Encore une fois, pareil aussi. C'est quelqu'un qui, par son trajet, il n'est jamais passé par l'enseignement public. En Creuse, il n'y a pratiquement que des écoles publiques. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très, très contradictoire avec les besoins du territoire dans la trajectoire de ce jeune homme.
Oui, c'est quelque chose, d'assez commun à l'extrême droite, d'ailleurs, ce paradoxe. Mélange de libertarianisme, en tout cas d'une politique assez libérale, économique, et puis un vague discours un peu populiste qui prétendrait s'occuper des gens, mais on ne sait pas trop comment tout ça se lie et comment ça peut se coordonner, quoi.
En tout cas, dans la frange ciotiste de la coalition d'extrême droite, il y a vraiment un message ultra-libéral qui est beaucoup plus revendiqué, je crois, qu'au Rassemblement national.
Mais cela dit, les incohérences sont encore là, oui, à Paris et dans certains discours, dans les discours nationaux, effectivement, Ciotti et ce parti sont complètement anti-État, anti-fonctionnaires, etc., anti-service public. Et le Noir, localement, s'insurge contre la suppression de la ligne de train Guéret-Felletin. Donc c'est vraiment... Voilà, dire tout et son contraire, peu importe, en fait, ce type comme beaucoup de responsables d'extrême droite, voilà, portent des messages hyper contradictoires tout le temps, en fait. Donc là, au niveau national, on est pour les dépenses, la réduction de toutes les dépenses et la réduction de tous les services publics. Et localement, on va dire qu'il manque des profs et que ça va pas et qu'on défend les gens. C'est assez grotesque, mais ça continue. Je ne sais pas si on peut continuer sur le personnage. Il y a quand même...
Non, mais une autre contradiction aussi, là, son chef de parti, Ciotti, a salué l'élection de Donald Trump. Est-ce que l'élection de Donald Trump va servir les intérêts des Creusois, et notamment des agriculteurs creusois, parce que c'est quand même aussi pareil, il se fait le défenseur de l'agriculture creusoise. L'augmentation en masse des droits de douane aux États-Unis va avoir un impact très fort sur l'économie française et sur l'industrie qui prétend défendre, et évidemment sur l'agriculture, parce que il y a un gros enjeu au niveau de l'exportation des produits agricoles français aux États-Unis. Donc comment ils peuvent se réjouir de l'élection de Trump? Enfin, ça paraît complètement délirant. Un autre point qu'on soulève, donc l'association Contribuable Associé, dont il a été directeur, est une association qui relaie des thèses climato-sceptiques, pour lequel le réchauffement climatique, c'est un phénomène médiatique qui n'a pas du tout de support scientifique. Bon, les projections sur le département de la Creuse à l'horizon 2050, l'élevage, ça va être très très compliqué. Et 2100, on sera dans des zones qui rappelleront plus l'Afrique du Nord que les paysages actuels. Donc celui qui se prétend à défendre la Creuse éternelle, la Creuse de toujours, ça nous paraît quand même assez fou qu'il ne se préoccupe pas de cette question, en tout cas qui fait partie d'une association qui en nie la réalité. En tout cas, défendre à notre sens les intérêts des agriculteurs, c'est prendre à bras le corps cette question et la prendre au sérieux.
Oui, peut-être que c'est vrai qu'on voit l'élection de Donald Trump depuis la France, hein, un peu avec condescendance, un peu, quoi, on rigole pas, les Américains vraiment ils font un peu n'importe quoi, ils se font bananer, etc. Mais le monde de Lenoir, c'est peut-être malheureusement le monde qui arrive dans pas très longtemps, en tout cas c'est dans les pronostics de pas mal de politiciens, enfin de politistes plutôt, pardon. Donc ça va peut-être ressembler un petit peu plus encore à ça, le monde politique dans lequel on va évoluer à l'avenir, quoi. Ça fait un peu peur, non?
En tout cas, cette génération de jeunes politiciens d'extrême droite, en tout cas, ce qu'on a voulu montrer dans l'article, c'est qu'elle n'est pas arrivée là par hasard, c'est qu'il y a eu des financements pour la former, c'est qu'il y a des intérêts, en tout cas des milliardaires qui ont mis énormément d'argent pour former ces gens, pour leur donner des réseaux, pour leur donner aussi des médias dans lesquels ils puissent s'exprimer. Et donc toute cette génération qu'on voit arriver, elle est pas sortie de nulle part, quoi, quelque part. Et il y a eu en tout cas, nous, on voulait vraiment attirer l'attention des lecteurs sur le fait qu'il est pas arrivé par hasard. D'ailleurs, quand je crois que même chez les Républicains, ils l'ont pas pris au sérieux, en fait. Il pensait que voilà, c'est quelqu'un qui allait un petit peu prendre le temps de gravir les échelons. Il explique que voilà, il a été conseiller de Ciotti, que c'était Ciotti qui l'avait repéré. Nous, on pose l'hypothèse dans l'article, finalement, est-ce que Ciotti, pressentant qu'il y aurait une dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, il ne l'avait pas placé à dessein en Creuse pour le moment venu trahir Valérie Simonet, qui était quelque part la candidate qu'on attendait chez les Républicains, puisqu'elle voulait se présenter depuis longtemps. Est-ce que son élection n'était pas programmée, finalement, en tout cas sa candidature?
On n'a pas parlé aussi de la dimension raciste du personnage. On n'en a pas parlé dans l'article, mais j'ai quand même envie de le citer. C'est que en février, début 2024, en tout cas dans la montagne, il dit « Ça y est, j'ai fait un tour de Guéret et j'étais très surpris de voir des gens en djellaba. On ne peut plus assimiler une telle masse. » On l'a pas repris dans notre article là, mais c'est un racisme qui s'exprime de façon légale, c'est-à-dire qu'on ne dit plus aujourd'hui il y a trop d'arabes, on dit « Ah, je viens d'arriver à Guéret, je vois qu'il y a beaucoup de djellabas là-bas ». Et voilà, c'est le moment de son élection, le noir, en début juillet, c'était aussi le moment où on voyait plein de candidats à FN, dont certains qui étaient vraiment trop ridicules dans leur incapacité à s'exprimer à un micro, à dire autre chose que il y a trop d'arabes. C'était, il y avait vraiment certains, c'était à partir, enfin, ils avaient que ça comme phrase quasiment à dire. À partir du moment où il y aura moins d'immigration, tout ira mieux, quoi. Et le noir, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui a quand même fait des études, maths, puis ensuite école de commerce, même si bon, je sais pas trop ce qu'on y apprend. En tout cas, voilà, il peut lisser son discours, dire qu'il n'est pas raciste, évidemment. Hein. J'imagine que s'il entendait cette émission, c'est le premier réflexe qu'ont les racistes, c'est de bien sûr assurer qu'ils ne le sont pas. Mais voilà, faire passer quand même, juste dans le journal local, qu'il y a beaucoup de djellabas à Guéret, tout le monde a compris. Quand il dit ça, ça suffit à faire un petit clin d'œil à tout l'électorat raciste de Creuse, et il y en a. Et donc, voilà, il a eu, je crois que c'est 23 000 voix sur... 80 000, je crois, inscrits, qui ont suffi à le faire élire.
Moi, j'aurais quand même... Est-ce qu'on peut parler quand même... Tu en as parlé vite fait de la lettre des élus. Peut-être, Michel, tu as...
Oui, alors on a publié effectivement différentes réactions sur cette idée qu'est-ce que c'est qu'être creusois, qu'est-ce que c'est de pas être creusois. C'est un texte d'Alain Détol. Et puis on a aussi publié ce manifeste qui a pas mal circulé depuis, puisqu'il y avait, au moment où nous on a publié 30 communes, il y en a eu quelques autres qui les ont rejoints. Je ne sais pas exactement combien aujourd'hui, mais il y a eu quelques communes supplémentaires, dont quand même les plus grosses communes de Creuse, hein, Aubusson, Guéret bien sûr, La Souterraine, qui ont signé ce texte. Alors c'est un texte pour dire que le rôle d'un député, c'est pas de dresser les uns contre les autres les habitants du territoire. C'est donc un texte qui est pas anti le noir, mais qui est anti la position qu'il défend, hein. De ce point de vue là c'est assez réconfortant de voir quand même que le personnage fait une certaine unanimité, y compris dans le parti dont il vient, puisque évidemment on se souvient des réactions de Valérie Simonet le soir du deuxième tour, où à quelques centaines de voix elle a vu Bartholomé Lenoir lui passer sous le nez, quoi, enfin lui prendre le siège de député. La dernière réaction qu'on a publiée, c'est celle de Véronique Decker, qui elle réagissait un petit peu par rapport au traitement des propos du député par la presse locale et en particulier par Radio France Creuse, France Bleu Creuse, pardon, où effectivement de temps en temps on peut s'étonner de la reprise de communiqués ou de positions du député sans qu'il y ait vraiment de vérification. Je crois que le comble, ça a été France 3 Limousin, qui a fait quand même un reportage en allant jusqu'au lac Chamais, en disant 100 personnes habitent là, alors que vous demandez à tous les habitants de Faux-la-Montagne qu'il y a peut-être à demeure 3-4 personnes, et que l'été, il y a pas 100 personnes qui habitent au Chamais. Donc ça, c'est aussi un peu une faillite d'un certain nombre de journalistes de la presse locale, de de dire des choses qu'ils ont entendu dire par Le Noir ou par je ne sais qui du reste, et sans aller le vérifier ou sans contredire Le Noir. Donc, quelque part, en le répétant dans leur colonne comme si c'était eux qui le disaient, ils donnent du crédit à la parole pleine d'élucubration du député. D'où le titre du texte de Véronique Lenoir, « Non, nous ne mangeons pas du chat en Creuse », et mes petits clins d'œil supplémentaires au nouveau président des États-Unis.
En tout cas, cette réaction des communes, moi je pense, enfin voilà, tu as cité Guéret, Aubusson, c'est pas uniquement les habituelles communes du plateau, enfin voilà, c'est pas Faux-la-Montagne, Gensioux, Perlevade, que sais-je, quoi, qui ont signé, ça allait vraiment plus loin, ça c'est peut-être plutôt quand même effectivement une bonne nouvelle, enfin il aura peut-être réussi à fédérer un petit peu ce territoire contre lui, d'une certaine manière, une partie en tout cas, quand même pas négligeable, et ça c'est plutôt...
On verra ça aux prochaines élections législatives qui au pire arriveront dans... 3 ans ou 2 ans, 3 ans, et peut-être avant.
Ben voilà, je crois qu'on a fait, un bon tour du dossier. C'est à lire, donc, c'est à lire dans IPNS, dans ce numéro 89. Il y a, je ne sais pas, 6 pages sur... 4 pages, ouais, tu vois, je suis un peu... ambitieux, mais c'est des grandes pages, ouais. Voilà, sur notre cher député. Merci. Et voilà, on va passer à la suite de l'émission. On continue à tourner les pages de ce numéro 89 d'IPNS. Et puis on va passer... on quitte un peu la politique pour aller... On revient un peu sur le plateau de Mille Vaches avec Michel Rouault et qui continue son exploration des témoignages. Là, tu t'es intéressé cette fois-ci à ce que tu appelais des paroles de paysans.
Exact, oui. Alors c'est parti d'un ensemble d'échanges, bon, de conversations qui ont eu lieu en 2015. En 2015, elles ont été récoltées par Guillaume Maigron, voilà, et elles étaient restées lettres mortes entre guillemets. Sans être exploité.
Et je crois que ça avait été exploité juste dans le cadre de la fête de la montagne limousine, c'est ça ?
Oui, c'était alors le but était, oui, pour la fête de la montagne limousine de 2015, de montrer aux personnes qui venaient à la fête ce qu'était le monde paysan, mais de l'intérieur, pouvoir le sculpter de l'intérieur, et pour aider les gens à mettre le doigt sur la situation des agriculteurs, leurs difficultés, etc. Alors, on a repris cet ensemble d'échanges qui était assez volumineux et on a essayé d'en faire une synthèse plus courte, quoi, avec de laquelle se sont dégagés quelques axes de réflexion. Alors, on y a trouvé pas mal de choses sur l'isolement des agriculteurs. Un isolement du fait qui s'explique avec une logique qui est assez implacable, quoi. C'est-à-dire la diminution du nombre des agriculteurs, les terres qui s'agrandissent, moins de temps pour autre chose que le travail. L'accès aussi au machinisme, parce que c'était devenu nécessaire. Enfin, voilà. Un autre axe, celui de, très important sur le plateau, l'élevage. L'élevage du bétail limousin. Alors, au point de départ, le veau sous la mer, qui est un produit de très grande qualité, et dont la qualité est malheureusement dévoyée par l'obligation, en fin d'engraissement, de faire appel à la filière italienne, à ce qu'on appelle la filière italienne, c'est-à-dire un engraissement qui, avec des compléments, uniquement avec des compléments alimentaires, et qui détruisent en fait la qualité première du produit. Alors, suivent les prix que ne maîtrisent plus du tout les producteurs. Et enfin, le dernier axe, c'est la gestion de la terre à l'heure actuelle. Que faire de la terre des paysans qui sortent du système? Et avec la difficulté de la transmission. Alors, ce sont un petit peu les quatre axes qui ont été retenus. Et on est allé voir deux agriculteurs, l'un en retraite.
Alors, peut-être juste sur les axes,
oui.
J'avais une petite question. Est-ce que dans la manière dont vous avez fait la synthèse, il y a des choses qui sont assez... des constats qui sont assez généraux à l'agriculture française en général, quoi. Enfin, c'est des constats, voilà, les prix, le machinisme, etc. Est-ce qu'il y a des spécificités un peu? Alors lui, c'est, je crois que l'enquête, c'est vraiment sur Tarnac, mais c'est quand même assez représentatif du plateau, disons, de la montagne Limousine en général. Est-ce qu'il y a des choses un peu spécifiques à la montagne Limousine qui vous ont sauté un peu aux yeux?
Pas véritablement. Par contre... la façon d'y faire face, oui, on a deux agriculteurs qui s'y sont pris de façon tout à fait différente. Voilà, et c'est là que c'est assez intéressant.
Très bien. Donc là, voilà, ça c'était le premier article, cette synthèse. Et ensuite, vous avez donc poursuivi l'enquête de Guillaume en allant voir. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont tous les deux de Tarnac? En tout cas, Marc, oui.
Oui.
Et sinon, non.
Non, c'est Faux-la-Montagne.
Et Faux-la-Montagne.
Mais c'est Châtain, donc c'est un peu sur la limite.
C'est quasiment Tarnac. Donc voilà, vous avez été voir deux agriculteurs et anciens agriculteurs, d'ailleurs. Et vous leur avez posé un peu vous avez servi un peu de la grille de Guillaume ou...
Oui, alors on était parti au point de départ sur le fait de poser la question par rapport à 2015, 10 ans plus tard, qu'est-ce que vous pensez de ceci ou cela? Et en fait, je me suis rendu compte que ils ne pouvaient pas répondre vraiment à cette question parce que 10 ans pour eux, ce n'est pas grand-chose, c'est trop restreint, trop petit. Et pour pouvoir exprimer ce qu'ils avaient à exprimer, il fallait qu'ils reviennent à leur histoire à eux, à leur vie à eux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu peut-être plus de développement que ce qu'on avait éventuellement prévu au départ, mais dans lesquels ils ont dit finalement beaucoup de choses, quoi.
Oui, effectivement, c'est assez dense, notamment, voilà, je pense à l'interview de Marc Poulet, qui est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire sur son travail, et il en dresse un bilan assez riche et assez où il ressent beaucoup de choses, quoi.
Alors, André Rosette, Bessette, sont plus dans la tradition, dans la génération précédente, ou les générations précédentes, oui, mais avec un sérieux et une intelligence pour conduire leur exploitation qui est assez étonnante, quoi. Enfin, qui est remarquable, quoi. Et Marc Poulet, alors, très différent. C'est quelqu'un, comme j'ai dit, je crois, qui est haut en couleur, hein, dans toute l'expression du terme, mais qui est un passionné à un point absolument incroyable. Il est passionné par son métier, il est passionné par la mécanique. Et c'est quelqu'un qui s'attaque à tous les défis et qui ne recule devant aucun, quoi. Et il y arrive. C'est quelqu'un qui est parti de rien et qui a réussi à se constituer une vie d'agriculteur et une exploitation qui tient véritablement la route. Donc c'est quand même là aussi remarquable sous une autre forme.
Oui, Michel, pardon.
Oui,
justement, dans son témoignage, il parle des demi-vaches. Alors, ouais. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Oui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que
ces demi-vaches? Que demi-vache?
Alors, oui. Je te pose la question.
Oui. Eh ben, c'est une idée qui peut paraître vraiment géniale, quoi. Parce que pour lui, alors, il serait partisan. Il aime les belles vaches avec un grand gabarit, comme on les voit plutôt dans la plaine du côté de Limoges que sur le plateau.
Les Limousines, quoi.
Les Limousines, oui. Mais il a compris que ce n'est pas possible d'arriver au même résultat sur le plateau. Parce que une vache de 800 à 1000 kilos, Bon, elle va faire sa vie de vache mère, mais quand il va falloir la réformer et quand il va falloir finir de l'engraisser, on n'arrive pas à l'engraisser. C'est pas possible de le faire au mieux, quoi, sur le plateau, avec la nourriture qu'on peut lui procurer sur le plateau. Ou alors, il faut faire appel à des compléments alimentaires qui coûtent très cher et qui finalement sont négatifs sur le plan financier.
Oui, d'où les centres d'engraissement et puis les voyages en Italie.
Donc il s'est dit, je ne vais pas faire des vaches de 800 à 1000 kilos qui sont impossibles à finir d'engraisser. Je vais faire des vaches de 500 à 600 kilos qui vont me donner autant de veaux. Et alors, peut-être moins gros, effectivement. Mais d'abord, c'est un avantage qu'ils soient moins gros pour des problèmes de veillage. Et surtout... je vais pouvoir finir de les engraisser avec les moyens dont je dispose, sans chercher des compléments alimentaires à droite et à gauche. Comme ça, on peut fonctionner. Voilà, c'est donc d'où l'histoire de la, d'où l'expression demi-vache, c'est qu'il a utilisé, c'est lui qui me l'a donné, quoi. Il l'utilise. Il dit ce sont les Sud-Creusois qui les appellent comme ça, les demi-vaches du plateau de 1000 vaches. Quoi. Voilà un petit peu l'histoire. Alors moi, j'ai repensé un peu à autre chose, mais on n'avait pas de plus de place. Là, j'avais pas,
c'était ça sera déjà... pour un prochain numéro.
Non, je me suis dit, parce que, en fait, ce que j'ai vu avec eux me fait penser à un peu la fin d'un processus qui, pour moi, a été entamé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, dès 1946. Il fallait à ce moment-là que la France soit autonome, devienne autonome sur le plan alimentaire. Il fallait que les industries soient relancées partout, y compris celles qui sont liées au monde agricole. Et l'État a décidé de redessiner les parcelles, c'est-à-dire diminuer le nombre de petites parcelles pour en faire des plus grandes. Ce qui entraînait, ça s'appelle, oui, le remembrement. Mais ce remembrement, il s'est fait à bas bruit. Il ne fallait pas en faire un étendard du tout, au contraire, parce qu'on craignait la résistance, etc. Et ça s'est fait un peu sous le manteau, par-ci, par-là. Et donc, des terres beaucoup plus larges, beaucoup plus grandes, des espaces de terres agricoles beaucoup plus grands. Alors, bien sûr, avec le machinisme qui va avec.
C'est ça, c'est lié à la mécanisation aussi, pour que les tracteurs puissent passer.
Oui, et avec, en plus, la productivité à outrance, la productivité maximale, quoi. Et on a fonctionné comme ça depuis 1946. Et c'est la raison de l'état de l'agriculture actuelle, à mon avis, quoi. Voilà. Et que, donc, c'est un peu, on arrive ici, là, un peu à la fin de ce processus, parce que je sais pas comment on pourra faire plus grand. On fera peut-être plus grand, parce que si ça ira peut-être jusqu'à des dimensions qu'on n'imagine même pas. Mais en attendant, on est dans ce processus-là. On est loin déjà dans ce processus-là.
Et d'un autre côté, là, j'anticipe un peu sur peut-être la prochaine émission, mais tu vas continuer à aller rencontrer des paysans dans la suite de ces deux-là, de ces deux portraits, y compris les plus jeunes.
Oui, voilà.
Qui sont installés depuis peu de temps.
Depuis peu de temps, ou qui sont en voie d'installation, ou qui vont s'installer pour voir comment eux, ils s'entendent de gérer maintenant l'agriculture sur le plateau de 1000 vaches.
Voilà. D'ailleurs, les deux portraits, enfin en tout cas les deux entretiens, se terminent par une question sur la transmission.
Et
avec pas mal d'incertitudes, en tout cas du côté de Marc Poulet, mais aussi d'André.
Oui. Alors il a eu une autre idée géniale, lui, puisque tu me reparles de ça, c'est de créer une EARL, c'est-à-dire une société. Il a réussi à faire signer à son propriétaire, qui a été bienveillant, un bail qui est lié à sa société. Donc le propriétaire ne peut pas louer à quelqu'un d'autre qu'à la société de Marc Poulet. Ce qui veut dire que finalement, Marc Poulet va être celui qui va décider de son successeur. et il le choisira. Et je retiens sa parole. Je prendrai quelqu'un qui n'a rien.
Voilà, bon, on va se quitter sur ces belles paroles de Marc Poulet pour cet article. Pour cet article. Et bah, merci Michel. Donc on suit là, on va suivre la suite de tes enquêtes à travers le pays.
Avec plaisir.
Allez, on continue et on va même clore bientôt cette émission IPNS. On va aller à la dernière page. Et une fois n'est pas coutume, on va parler des chroniques qui se trouvent sur cette page, et notamment parce qu'on a une petite nouvelle qui a fait son apparition sur ce numéro 89. Mais avant de parler de cette nouvelle chronique, on va parler d'une chronique qui a déjà un peu plus de temps d'existence, c'est la chronique d'exil, puisqu'on a Dominique qui est là pour nous en parler aujourd'hui. Alors, cette chronique, elle s'intitule « Faire entendre la voix de la solidarité ». Et tu vas nous dire un peu ce qu'il y a dedans, Dominique.
Pour ce qui est de la dernière chronique, effectivement, donc quand même, je précise que je suis membre de la CIMAD d'Emoutiers, qui existe depuis presque 10 ans maintenant, et qui, donc la CIMAD, c'est une association nationale qui a des groupes locaux un peu partout en France. Et qui est une association de solidarité active avec les migrants et les personnes étrangères. Alors, elle a plusieurs cordes à son arc. Hein, le soutien législatif qui est relativement connu, mais des choses un peu moins connues, que sont les plaidoyers auprès des élus, la sensibilisation auprès du grand public, les cours de français et un travail à l'international avec d'autres associations de défense des droits des personnes étrangères. Alors, cette chronique, c'est à la fois un appel pour avoir de nouveaux adhérents au groupe donc d'Emoutiers auquel j'appartiens parce que on vieillit, on aurait besoin d'un petit peu de jeunesse, essentiellement pour l'instant pour notre travaux de sensibilisation, c'est-à-dire de pouvoir aller monter des événements pour discuter des droits des étrangers auprès du public, auprès des écoles. J'ai repris ce qui se passe actuellement en France et en Europe au niveau des politiques migratoires, ce qui sont un vrai scandale, puisque le pacte européen, c'est une catastrophe avec des hotspots, c'est-à-dire des enfermements à proximité des lieux d'arrivée. Avec même le projet de mettre ces hotspots dans des pays tiers. Exemple, la Tunisie, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais la Tunisie, il n'y a pas très longtemps, a carrément organisé des pogroms contre les personnes subsahariennes, merci. Avec des gens qui se sont retrouvés exilés en plein désert, et qui ont été sauvés, tenez-vous bien, par les gardes-côtes libyens, dont on connaît la qualité de défenseurs des droits. Ces hotspots permettraient de trier les gens en fonction essentiellement de leur nationalité, avec un examen plus que sommaire donc, de leur droit à l'asile, même pas d'étude de leur... et de virer tous ceux qui seraient originaires de pays qu'on dit « sûrs ». En oubliant quand même que l'asile, ce sont des demandes individuelles, c'est pas du collectif. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme pays sûr ? Il y a des pays sûrs qui sont pas si sûrs que ça, je dirais. Et puis il peut toujours y avoir un Français peut parfaitement demander asile s'il s'estime persécuté dans un autre pays que la France qui aurait signé la Convention de Genève. Ça pose pas... Alors que la France est considérée comme pays sûr, en principe. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est donc le traité migratoire européen, le durcissement partout dans le monde de la situation des personnes en situation d'être étrangers, hein, avec par exemple en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, il y avait le CEDEAO qui était un... un système de libre circulation et d'installation entre pays. Actuellement, c'est remis en cause et des personnes, par exemple maliennes, qui se sont installées en Côte d'Ivoire, peuvent tout à fait être expulsées extrêmement facilement, alors qu'autrefois, c'était pas très compliqué de s'installer quand on était d'une autre nationalité. Et donc en France, nous avons eu la fameuse loi immigration de ce cher Darmanin, qui a été je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on reprenne des choses, mais
on va peut-être pas
tout reprendre. Et Retailleau qui remonte au créneau. Alors, il faut savoir qu'on a quand même une nouvelle loi immigration quasiment tous les 2 ans. Elles ont à peine eu le temps d'être mises en œuvre que déjà il y a une nouvelle loi. Donc c'est invraisemblable. Voilà. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis en retard. Hein. J'ai vu un couple tout à l'heure qui sont depuis 8 ans en France, qui ont fait plusieurs demandes d'asile. Madame a subi une opération pour la traiter d'une excision. Ils ont refait une demande d'asile pour ce motif-là, puisque en Guinée, ils sont guinéens, l'excision, même si elle est interdite par la loi, concerne plus de 90% des femmes, et socialement, se faire réparer d'une excision, c'est très mal vécu. Ces gens-là sont depuis 8 ans en France, ils ont redéposé donc une demande d'asile. Ça a commencé par un refus de ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil, donc ils auraient dû faire toute leur demande d'asile à la rue, sans ressources. Bon, il y a eu un référé qui leur a accordé les CMA et ça fait 6 mois, plus de 6 mois, qu'ils attendent une réponse. J'ai un jeune marocain qui accumule les promesses d'embauche par des garagistes, parce que je pense qu'il a une bonne formation. Une première demande d'embauche dans le sud de la France, ils ont perdu le dossier. Là, il revient à la charge pour une promesse d'embauche chez Peugeot. Bon, faut savoir que ce type de demande prend des mois, donc les employeurs se fatiguent un peu. Et en ce moment, c'est l'intérêt d'être dans une association nationale. On sait que toutes ces demandes sont bloquées. Sauf que lui, il insiste et on comprend. Il est compétent. Il est dans un domaine où on manque de personnel. Il parle parfaitement, il écrit parfaitement le français. Mais je suis très inquiète de faire cette demande. Voilà.
Alors, on voit, il y a beaucoup
de...
Non, mais c'est que le temps passe et faut clore l'émission. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de travail. Donc, on invite toutes les auditrices et auditeurs qui ont un peu de temps ou qui ont envie de donner du temps pour ces questions-là à contacter la CIMAD des Moutiers. Peut-être qu'on peut donner le mail.
Alors, le mail, il est très simple. C'est emoutier, donc avec un S à la fin, @lacimade.org, en minuscule, tout attaché, CIMADE, CIMADE.
Merci Dominique.
Voilà.
Et alors, on va finir avec la petite nouvelle. Donc, la personne qui écrit la chronique elle n'a pas pu venir à l'émission. Mais Michel, je crois que tu vas nous en parler un petit peu. C'est une chronique qui s'appelle « La chronique des peuples ».
Oui, alors les deux dernières, les pages 18 et 19 d'IPNS sont effectivement consacrées à des chroniques. Il y en a une qui s'appelle « Pour continuer, taper 1 ». Qui est une chronique de critique de la technique. Il y a la chronique dont Dominique vient de nous parler. Il y a le blaireau de bibliothèque où on fait dans chaque numéro la présentation d'une bibliothèque privée ou publique du plateau. Et puis, voilà, donc il restait encore un quart de page. Ça y est, elle est remplie par cette nouvelle chronique qui s'appelle « La chronique des peuples ». Et ça, le fait d'avoir écouté Dominique nous parler de la chronique d'exil juste avant, nous fait un lien presque évident avec la chronique nouvelle qui s'appelle cette fameuse chronique des peuples. C'est-à-dire qu'ici, d'abord, comme chacun sait, le plateau de Mille Vaches n'est pas coupé du monde. Hein, je pense en vrac, aux exilés qui, au moment de la guerre d'Espagne, sont arrivés ici. Je pense aux Chinois qui viennent nous acheter notre bois. Je pense aux effets qu'ont les traités de libre-échange dans le monde agricole. Là, actuellement, tous les agriculteurs qui manifestent contre le Mercosur, etc., etc., etc. Donc, si on ne peut pas faire un journal d'information et de débat du plateau de Mille Vaches si on se fait une frontière autour du plateau de Mille Vaches et qu'on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe sur le plateau depuis pas mal d'années aussi, c'est que par le biais des exilés ou par le biais d'associations de solidarité, il y a des liens qui se tissent ou qui se sont tissés et qui continuent à se tisser avec des luttes un peu partout dans le monde. Et il y a tout récemment au sein du syndicat de la Montagne Limousine un groupe internationaliste même qui s'est créé pour rendre cela plus visible. Et donc, en fait, il n'y a pas un auteur pour cette chronique, il y aura sans doute plusieurs auteurs, puisque c'est des membres de ce groupe international du syndicat La Montagne Limousine, qui viendront nous parler chaque trimestre d'un peuple qui lutte, d'un peuple qui essaye de s'échapper de la dictature, d'un peuple qui veut reprendre en main son avenir. Et il se trouve que la première chronique est consacrée à la Syrie. Alors, pour la petite histoire, la chronique a été écrite avant la chute de Bachar el-Assad, mais justement pour montrer que ça commençait à bouger, que c'était en train de se bousculer. Et puis, quelques jours plus tard, le régime est tombé. Donc, la chronique a été vite réécrite dans la précipitation. Mais ce qu'on se dit, c'est que si à chaque chronique, un dictateur tombe, eh ben, on va peut-être passer à un rythme mensuel pour IPNS. Ce serait pas mal.
Ça serait pas mal. Et puis, il va y avoir du monde qui va se battre pour apparaître dans IPNS, quoi. Je crois qu'il y a pas mal de boulot.
Voilà, donc c'est à découvrir désormais chaque trimestre, sans doute des pays différents et des luttes différentes, comprendre un peu ce qui se passe un petit peu dans le monde, des gens qui se prennent en main comme nous ici, on essaye aussi de se prendre en main.
Ben voilà, on va finir l'émission là-dessus et on se retrouve dans un petit trimestre, quoi. C'est déjà bien commencé. On a un peu une idée de ce qui va...
On se réunit justement pour commencer à travailler sur... pour continuer à travailler sur le sommaire du prochain numéro, mais on y parlera certainement encore, donc, d'agriculture.
Très bien. Et ben, merci à toutes, merci à tous, et on se retrouve dans un trimestre pour parler du numéro 90. Journal d'information et de débat du plateau de Mille Vaches sur Radio Vassivière.